I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, petit message, il y a un truc qui vous aura pas échappé. Aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, les notifications, les emails et toutes les distractions, eh bien, on n'est pas hyper nombreux à se sentir très productifs. On traîne, on procrastine, on priorise pas les tâches et au final, on termine toutes nos journées sans jamais avoir accompli tous nos objectifs. Et le pire, c'est que ça peut même impacter notre santé. Par exemple, on prend pas le temps d'aller voir son thérapeute pour une petite douleur ou pour faire un check-up. On ne met pas en place une séance d'étirement, on n'a pas le temps d'aller au spa se faire masser, de se faire des bons repas, etc., etc. Et pourtant, si je vous disais qu'il existait un moyen efficace pour être plus productif, pour en faire plus en moins de temps et de se dégager un maximum de temps libre, eh ben c'est possible grâce à la courbe biologique de la performance. Alors je m'explique. Le secret de la productivité, c'est pas de passer plus d'heures à bosser ou de se rajouter un maximum d'heures dans sa journée. C'est pas possible, on a que 24 heures et des obligations. Non, l'objectif, c'est d'identifier vos différents niveaux d'énergie, vos pics de concentration, puis de répartir vos différentes tâches de travail à des moments clés de votre journée et selon ces niveaux d'énergie. Et c'est ça ce qu'on appelle la courbe biologique de la performance. Et devinez quoi ? Il y a des tas et des tas d'entrepreneurs et de sportifs de haut niveau qui l'utilisent et qui leur permet d'accomplir bien plus que n'importe qui, en tout cas que vous et moi aujourd'hui. Et alors si je vous en parle, c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle. Mon ami Jérémy Coron, qui est spécialiste en neurosciences et qui était d'ailleurs passé dans l'épisode 76 du podcast, il vient de sortir un tout nouveau programme. Ça s'appelle Routine Haute Performance et ça va justement vous aider à décrypter votre propre courbe biologique pour vous créer une routine personnelle en fonction de vos niveaux d'énergie. Et alors, j'ai eu l'occasion d'appliquer ce modèle et perso, ça a complètement changé ma manière de bosser. J'ai eu de meilleurs niveaux de concentration, j'ai eu plus de motivation, plus de créativité, j'accomplis beaucoup plus. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez sûrement remarqué avec tout ce que j'ai lancé sur le podcast récemment. Et j'ai même pu reprendre des activités que j'avais laissées de côté depuis un moment. Alors évidemment, je vous recommande ce programme à 200%. C'est une formation vidéo en ligne sur 7 jours qui va vous apprendre à hacker votre cerveau pour en faire plus en moins de temps et pour vous dégager un maximum de temps libre. Et pour vous aider à franchir le cap, je vous ai négocié une réduction de fou furieux. Vous avez droit à moins 50% sur la formation et c'est uniquement pour vous les auditeurs du podcast. Alors pour récupérer le programme à ce tarif, vous allez sur biomecaniquepodcast.com/routine. R-O-U-T-I-N-E, et il n'y a que sur cette page que vous pouvez l'avoir à ce prix. Et tout est expliqué dessus. Mais attention, la promo dure uniquement jusqu'au 21 avril, c'est-à-dire dimanche prochain. Et alors attendez, c'est pas fini, parce que Jérémy s'engage personnellement à vous rembourser jusqu'au moindre centime si vous ne voyez aucun résultat sur votre productivité dans les 14 jours après avoir passé commande. Alors si avec ça vous n'êtes pas convaincu, je peux plus rien pour vous. Je répète une dernière fois, le programme Routine Haute Performance à moins 50%, c'est sur biomecaniquepodcast.com/routine. Et puis si vous écoutez le podcast sur Spotify actuellement, c'est encore plus simple. Vous pouvez retrouver le lien cliquable tout en haut dans la description de l'émission. Voilà, ça se termine dimanche prochain le 21 avril. Alors foncez et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout en meilleure santé. Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, je suis accompagné de Jeff Bonner. Jeff, bonjour et bienvenue sur le podcast.
Bonjour.
Comment est-ce que ça va ? On a eu le temps un petit peu de discuter en off, évidemment, mais là, on est en public. Les gens nous écoutent maintenant, donc je vous redemande un petit peu comment ça va, comment vous sentez, quel est le temps en France ? Quelles sont les nouvelles ?
Eh bien, le temps en France, c'est un peu variable. Un jour sur deux, il y a du soleil. Là, aujourd'hui, c'est plein soleil. On se croit sur la Côte d'Azur. Hier, on s'est cru en Bretagne, vous voyez. Et donc, écoutez, ça va bien malgré le confinement. Bon, ça fait depuis le mois de mars qu'on est là-dessus, quoi. Bon, ouais. Bon, moi, je fais avec. Bon, je suis pas trop malheureux puisque, enfin, moi, je suis à la retraite, j'ai pas à me déplacer pour travailler. Donc, j'ai ma salle de sport chez moi, j'ai mon mon studio de montage vidéo. Enfin, disons que je m'embête pas. Je m'occupe. Voilà.
Ok. Bon, on enregistre au moment où on enregistre cet épisode. On est en novembre. Donc ici, c'est pas les mêmes températures puisque je suis actuellement et toujours à Montréal, donc où il doit faire autour de entre 0 et 5 degrés. J'ai pas regardé ce matin. Et vous me disiez en off, justement, c'était intéressant, que vous avez passé 3 ans au Québec et que vous en avez gardé un bon souvenir. Alors, je rassure tous les auditeurs, on va parler sport, on va parler musculation, mais je trouvais ça juste intéressant d'avoir le petit avis de Jeff par rapport à ça.
Non, non, il y a 3 ans, je suis parti au Québec.
Il y a 3 ans, vous êtes parti au Québec, d'accord.
Je suis resté 15 jours, voilà.
Ouais, pour des vacances. Et ça s'est super bien passé.
Ah là là, on peut pas mieux faire. Formidable.
Alors, c'est quoi le souvenir que vous en gardez
au niveau de la culture, j'ai plein d'images dans la tête, puisqu'on est arrivé à Toronto, déjà. Bon, moi, j'ai toujours rêvé voir les chutes du Niagara, donc je les ai vues, je les ai filmées. J'étais sur le bateau avec ma caméra étanche. Bon, j'ai filmé ça, j'ai filmé plein de choses, quoi. Enfin, oh là là, je peux pas vous dire, puisque j'ai fait une vidéo qui dure à peu près 3 heures. J'étais voir les bisons. J'étais, comment dirais-je, à Ottawa, j'étais partout. Mais le Québec, la ville de Québec, franchement, c'est... Là, je suis resté dingue, quoi. Ça m'a vraiment plu.
J'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire un tour. Ça fait, moi, ce qui m'emmène, ça fait 3 ans que je suis ici. Et j'ai été à Toronto, j'ai été à New York, évidemment. Hein. C'est un peu les destinations où les Français vont assez rapidement lorsqu'ils arrivent à Montréal pour visiter. Mais par contre, j'ai pas été encore à Québec, dans la ville de Québec, et on m'en a dit beaucoup de bien.
C'est magnifique, hein, c'est vraiment l'occasion d'y aller. Bon, y a des choses qui m'ont surpris. Par exemple, la ville souterraine à Montréal.
Souterraine,
là, je me dis, c'est pas possible.
Ah ben, quand il fait froid, faut bien se mettre sous terre. Hein.
Non, non, mais c'est vraiment beau. Et puis, bon, les gens sont super sympas. Ils venaient nous voir dans la rue, nous accoster. Vous êtes français, avec leur accent, un peu à la Garou, à la Céline Dion. Vous êtes français, tout ça. Oui, ils nous indiquaient des choses. J'ai trouvé qu'ils étaient vachement sympas, quoi, au niveau de l'accueil. Les gens sont heureux. J'ai l'impression que là-bas, les gens sont heureux, quoi.
C'est pas exactement la même façon d'aborder les choses. Je dirais pas que la culture est complètement différente, faut pas déconner non plus, c'est pas comme si on était au Japon, où là pour le coup c'est vraiment vraiment différent, mais je suis d'accord sur le fait que les approches, la façon de vivre, en tout cas d'appréhender les choses, est un peu différente, la façon de se comporter aussi, c'est plus cool. J'ai l'impression, moi aussi, ça fait un moment que je suis ici, et puis on est tous d'accord, hein, de tous ceux qui sont expatriés, que l'ambiance est quand même un petit peu plus positive, et on doit avouer que c'est pas les mêmes contraintes actuellement qu'il y a en France, sans juger, mais bon, ça va donner envie à tout le monde de venir, ce qui est tant mieux, hein, d'un côté.
Moi, je dis tout le monde, tous les gens qui me disent le Canada, donc moi j'ai fait un Blu-ray, j'aurais montré, ils m'ont dit, mais c'est formidable, et puis en plus j'ai rajouté les musiques canadiennes, tout ça. Mais non, mais vraiment, je pense que moi, c'est un de mes plus beaux séjours. Hein. C'est un de mes plus beaux séjours. Au niveau de l'accueil et tout, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai pris l'avion, hein, quand je suis rentré, puisque nous, on a pris le guide dans nos bras, quoi. On était tellement heureux. On avait l'impression de le connaître depuis toujours. Et puis, il nous racontait des histoires le soir, vraiment. Non, mais franchement, vraiment un beau souvenir. Et moi, j'ai bien envie d'y retourner, hein, parce que avec ma femme, on a envie d'y retourner, parce que vraiment... Ça nous a laissé un souvenir vraiment super, super bien. Ouais.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Jeff, vous présenter pour les auditeurs qui vous découvrent aujourd'hui, qui vous ne connaissez pas auparavant?
Ah, me présenter, ça va être assez facile. Bon, moi, je suis Jeff Bonner. Je suis né le 26 juillet 1949 à Paris. Et bon, comme tout le monde, hein, j'ai été à l'école, j'ai pas très très bien brillé pendant les études, mais c'est pas pour ça qu'on est un idiot, hein. Guy de Graine, c'était un cancre, Michel Drucker n'a même pas son certificat d'études, vous voyez? Donc, tout ça, ça veut rien dire. Et puis, j'ai toujours été attiré par le sport, et puis, mais ce qui m'embêtait un peu dans le sport, c'était surtout les horaires, parce que les horaires, c'était toujours, après 17 heures, entre 17 heures et 21 heures. Et puis fallait aller au sport à ce temps-là. Et puis bon, moi ça me cassait un peu les pieds après le boulot, ou même après l'école. Et puis un jour, j'ai découvert la muscu dans une salle municipale qui était ouverte plusieurs heures dans la journée. Et je me suis dit, je vais peut-être aller y faire un tour. Puis ça me convenait au niveau des horaires parce que je pouvais y aller soit le matin.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
Oula, mais j'avais 19 ans, c'était juste avant le service militaire. D'accord. Mais oui, je suis pas tout jeune. Hein.
Donc, ben ouais, parce que 49, ça fait 70.
Eh mais oui, je suis plus près du grand. Je suis plus près du grand truc du petit, comme on dit chez nous.
Vous voyez, c'est formidable. Vous continuez à vous entraîner et c'est exactement une des raisons pour lesquelles je voulais vous avoir sur le podcast. Et d'ailleurs, voilà. C'est Michel Garampolo, c'est ça qui nous a mis en contact.
Et disons que j'ai commencé la muscu comme ça, puis. Bon, ça me convenait parce que bon, je pouvais y aller un peu quand je voulais. On demandait un peu des fois les clés aux gardiens qui étaient très sympathiques. Je me suis pris au jeu et puis un jour j'ai changé de salle. J'étais dans une salle qui était un peu plus équipée. Et puis avant je suis parti à l'armée, bien sûr. À l'armée j'ai continué parce qu'on avait l'haltérophilie, on avait tout ça. Donc j'ai continué là-bas et puis j'ai rencontré un vieux prof de muscu qui s'appelait Christian Dancal, qui est très connu dans le milieu du body. Enfin, les anciens, eux, ils le connaissent bien. Moi, je m'entraînais dans une salle, la salle des cheminots, là-bas à 7, c'était très sympa. Lui s'entraînait et il m'a posé des questions sur la musculation et il m'a dit ce qui est important dans la muscu, c'est la longévité. Et il m'a sorti une chose que je ressors souvent. Il vaut mieux faire un beau vieux qu'un beau jeune.
Et ça, il vous a dit ça à quel âge? Vous aviez quel âge lorsque...
Moi, j'avais 20 ans. Quand il m'a dit ça.
Est-ce que ça vous a parlé?
Ah mais il y a intérêt.
Ouais, même à 20 ans, ça vous a parlé? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ça à quelqu'un qui a 20 ans, je ne suis pas certain que ça lui parle, hein, de cette histoire-là de faire un bon vieux.
Pas grand-chose, hein, les jeunes, maintenant, des fois. Non, mais qu'est-ce que je voulais... Donc, il m'a sorti ça. J'étais militaire. J'allais m'entraîner à partir quand on avait le quartier libre, le soir, à 5 heures et tout. Et puis, lui, il était là. Il était sous le Cap d'Agde beaucoup, sous le Cap d'Agde il était. Moi, j'étais à 7 à l'armée, dans le golfe du Lion. Et il m'a sorti cette phrase-là, que j'ai encore sortie l'année dernière d'ailleurs, « Vaut mieux faire un beau vieux qu'un beau jeune ». Pour lui, la musculation, c'était la longévité. Bon, pour lui, briller pendant 2-3 ans, c'était pas utile en fin de compte. Voilà, lui, c'était la longévité, il fallait être en bonne santé. Donc moi, moi, c'est ce que j'ai fait, en fin de compte. Donc, j'ai continué à m'entraîner, tout ça. Donc, je suis sorti de l'armée. Et puis, je me suis entraîné. J'ai fait donc des compétitions. Et puis, un jour, on m'a demandé de passer la ligne jaune. Vous voyez?
C'est-à-dire?
Passer la ligne jaune, c'est de tricher un petit peu, quoi. Et alors, je me suis dit, oh là 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 là. Comme je connaissais pas mal de gens du body, à l'époque, il n'y avait pas tous les compléments, alimentaire qu'il y a maintenant. Il y a des super compléments alimentaires, il y a des boutiques partout. On peut trouver beaucoup, donc, des vitamines, des choses pour progresser, pour pas être fatigué, tout ça. Mais avant, il y avait recours à des choses un peu bizarres. Peut-être que maintenant aussi, ça doit se faire.
Alors, j'ai envie de creuser un petit peu là, parce que déjà, de un, je suis curieux, et les auditeurs sont curieux aussi. Tout le monde est curieux. L'être humain est curieux. Quand vous dites tricher et des produits. Vous parlez de quoi exactement? Qu'on soit sûr de quoi on discute.
Ben, des produits un petit peu illicites, quoi. Des produits illicites. Mais moi, c'est des trucs qui m'ont fait peur. D'ailleurs, moi, les médicaments, ça me fout toujours les jetons, déjà. Quand je dois prendre un truc, je dis 10 fois la notice. Je me renseigne. Et puis, des fois, j'en prends la moitié, puis je les fous en l'air. Vous voyez, prendre des médicaments quand on a la crève et tout comme ça. Tout ce qui est piqûre, moi, je fuis tout ça, quoi. Il y a que les moustiques qui me piquent, en fin de compte. Voilà.
Ok, donc en fait, on vous propose de passer de l'autre côté de la barrière pour des compétitions. Alors, la première fois que ça vous arrive, est-ce que c'est pour une compétition ou c'est
des fois pour aller plus loin, mais bon, moi, je vais vous dire, on est quand même tenté quand même. Hein. On est un peu comme tenté, un peu comme les ados, la cigarette, l'alcool. On est un peu tenté, en fin de compte. On se dit, ah, peut-être pour aller plus loin, je sais pas. Mais moi, mon entraîneur m'avait dit... Tu seras jamais un grand champion parce que tu réfléchis trop et tu n'es pas à 150% dans la muscu. Il faut être à 150%, il fallait pas réfléchir des conséquences, tout ça. Moi, ça m'emmerdait un petit peu parce que je me suis dit, oh là là, pff. Puis j'avais vu tellement de copains, en fin de compte, on ne savait pas trop, quoi, en fin de compte.
Et ça, c'est toujours autour de la vingtaine?
Ben, disons quand on est ado, puis quand on a 20, entre 20 et 23 ans, déjà on est peut-être un peu plus, c'est plus facile à me convaincre quand on, que quand on en a 40 ou 50, quoi. Et on est jeune, on bout tout un peu comme, les jeunes, comment ils sont, ils veulent foncer. Quand ils sont en voiture ou en mobylette, ils veulent foncer. Puis en body, on est un peu pressé, quoi. On veut aller de l'avant, et puis on voit des, en fin de compte, on regarde toujours ceux qui sont au-dessus de nous. Et puis on se dit, oh là, moi, je veux être comme eux, quoi, en fin de compte. Et moi, je me suis posé la question, et puis je me posais toujours ce truc, il vaut mieux faire un beau vieux qu'un bon jeune. Et j'ai préféré aller sur la longévité, en fin de compte.
Ok, bon, on va y revenir un petit peu après sur la suite de ça. J'ai quand même une petite question que j'ai envie de vous poser avant de continuer, que j'adore poser à ceux qui s'entraînent depuis longtemps, soit qui ont une carrière là-dedans, soit qui sont véritablement passionnés. C'est, est-ce que vous vous rappelez de la première séance en salle de sport, votre toute première entraînement de musculation? Comment il s'est passé?
Je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que l'entraîneur, c'est un haltérophile. Il m'avait fait faire des squats, mais juste avec un manche à balai pour pouvoir me corriger, parce qu'on a tendance souvent, quand on fait des squats, au début, d'aller en avant ou en arrière, quoi. Donc, il m'avait fait faire je me souviendrai toujours, 5-6 séries de 20 répétitions. Et puis, il m'avait fait faire de la presse à mollet. Et puis, j'avais fini par une séance de pull-over.
Si je comprends bien, votre toute première séance d'entraînement, en fait, était une séance jambe, quoi.
Oui, c'était une séance jambe parce que, comment dirais-je...
Ce qui n'arrive pas aujourd'hui, je pense que c'est fini.
Le professeur qui était un prof d'haltérophilie, qui était d'ailleurs champion du monde FSGT, pardon, d'haltérophilie dans les 65-70 kilos. Donc, pour lui, ce qu'il fallait avoir, c'était des jambes, des abdos et une ceinture lombaire, quoi. Abdos, lombaires, cuisses. Les pectoraux, après, bon, pour lui, c'est autre chose parce qu'il disait le pectoraux, c'est juste, c'est de la garniture, ça sert pas à grand chose. Mais il dit ce qui est important, c'est d'avoir des cuisses, d'avoir des mollets, d'avoir un cul pour tenir debout. Voilà. On l'écoutait parce que c'était à Villejuif et il y avait 3 champions haltérophiles. Donc, on les écoutait parce que bon, on était en admiration, ils avaient fait les championnats du monde FSGT. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. On commençait par... parce que chez les haltérophiles, il y a beaucoup de squats, quoi. Alors, on squattait, puis... c'était ma première séance, et je m'en souviens toujours, puisque le lendemain, moi, j'habitais au 8e étage, et je pouvais même pas descendre les marches, quoi, tellement j'avais mal. J'avais même envie de pas revenir. Et j'ai un pote qui m'a dit, non, faut y aller, c'est comme ça la première fois. Et puis, en fin de compte, j'y suis retourné, et puis bon, j'ai eu mal partout pendant une semaine, et puis après, bon, bah c'était bon. Voilà, c'était... Puis je me suis plongé.
Okay, bon, première séance, quoi.
Oui, oh là là, j'ai souffert. Mais pourquoi je suis venu à la musculation? Je vais vous expliquer. J'avais 14 ans, 15 ans. J'allais à la piscine avec ma grande sœur. Et puis, il y avait trois, quatre messieurs avec un gros ventre et tout. Et puis, je dis à ma sœur, oh là là, le ventre qu'ils ont. Et puis, elle me dit, tu sais, les hommes à 40 ans, c'est comme ça qu'ils deviennent. Nom de Dieu, j'ai dit, mais jamais je vais être comme ça, c'est pas possible. Elle me dit, oui, mais souvent, les hommes à 40 ans... Et j'ai dit à ma sœur, jamais je serai comme ça. Je te dis, jamais je serai comme ça. Et j'ai jamais voulu, quoi. Ça me plaisait pas du tout. Puis en fin de compte...
Et pour quelle raison exactement?
Ah, parce que je les trouvais pas bons.
Pourquoi ça vous faisait peur?
Ah, ouais. Non, parce que je trouvais que... Parce qu'on me disait toujours, oh, 40 ans, c'est pas vieux. Alors je disais, merde, ils sont jeunes, ils ont du ventre. Mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Bah, tout le monde n'avait pas de ventre. Mais ceux-là, ils m'ont frappé parce qu'ils avaient du ventre. Ça devait être trois collègues de boulot. Ils devaient bosser ensemble et manger ensemble. Et j'ai trouvé ça. Non, non, j'ai dit à ma sœur, non, je veux pas être comme ça, c'est pas possible. Elle m'a dit, tu sais, souvent, les gens à 40 ans. Et moi, j'ai dit, non, non, je veux pas être comme ça. Il faut pas, quoi. Et voilà, donc, c'est comme ça que je me suis dit, non, c'est pas possible. Je veux pas être comme ça à 40 ans. Parce que maintenant, 40 ans, c'est jeune, 40 ans. Mais j'ai jamais voulu, en fin de compte. Et j'ai toujours fait pour. C'est pour ça que je me suis mis un peu là-dedans, dans le sport. Et puis la muscu, mais je me suis, oui, j'aime beaucoup la muscu, mais il y a un petit côté qui me dérange quand même dans la muscu. C'est ce côté un peu m'as-tu vu, ce côté un peu narcissique qui fait que bon, les gens ont toujours des choses à dire sur nous, quoi, à cause de certaines personnes qui se tiennent pas comme il faut, quoi. Voilà, c'est ça.
Et alors, vous avez commencé à faire des compétitions à quel âge et pendant combien de temps ça a duré?
J'ai fait des compétitions, j'ai commencé à l'âge de 22 ans jusqu'à 30, 34 ans. Voilà, j'ai été loin, j'ai gagné deux fois les championnats métropole, j'ai fait les championnats de France, j'ai fait deux fois les championnats d'Europe, en Allemagne, une fois à Vérone. Mais c'est vieux tout ça.
Pourquoi vous avez décidé d'arrêter à 34 ans? Ça a été quoi le switch?
Parce que, en fin de compte, je voulais pas consacrer ma vie à ça, quoi. Parce que bon, pour moi, il y avait pas autre chose, quoi. Il y avait autre chose dans la vie, quoi. L'entraînement, j'aime bien, mais j'aime aussi beaucoup plein de choses. Et puis bon, moi, j'allais me marier, puis j'avais envie de fonder une famille, quoi. Donc, il y avait le travail, l'entraînement, tout ça. Moi, je trouve que c'était beaucoup. Parce que le problème de la muscu, c'est faut être à 120% là-dedans. Beaucoup consacrent tout. Il y en a qui consacrent leur salaire. Il y a le salaire qui passe, il y a la vie de famille, il y a tout ça. Puis moi, j'avais pas envie de rentrer là-dedans, quoi. Moi, j'aime bien ma vie de famille, j'aime beaucoup de choses, et puis j'aime bien m'entraîner, bien sûr. Mais il y a plein de choses que j'aime, et on m'a fait comprendre qu'il fallait être à 150% là-dedans, et moi, 150%, je peux pas. Il y a trop de belles choses dans la vie, puis la vie, elle passe vite. Voilà, donc, ouais. Ça m'a pas empêché de faire des compétitions, puis bon, j'ai tiré les rideaux, mais sans regret, puisque j'ai quand même continué mes entraînements au quotidien, et puis je suis toujours dans le milieu.
Ouais, mais ça, je trouve ça excellent, on va en parler quand même, parce que c'est un des trucs vraiment, moi, qui m'a poussé à vous avoir sur le podcast au maximum. C'est parce que je trouve ça assez génial, et ça va motiver, et au-delà de motiver, ça peut en inspirer beaucoup, et ça fait partager des valeurs que j'ai envie de partager dans cette émission. Donc on va revenir vraiment sur l'entraînement après 40, 50, 60 et aujourd'hui 70, je trouve ça super. Avant ça, j'avais une petite interrogation. Donc je voulais simplement éclaircir le truc. Entre la vingtaine et 34, donc vous faites des compétitions de bodybuilding, on est d'accord. Et déjà, de 1, est-ce que vous avez des influences particulières à ce moment-là? C'est qui, en termes de star, en termes de personnalité qui est connue sur la scène body, sur la scène de la musculation?
Ben oui, vous voyez, moi, avant là où j'habitais, enfin à côté, jusqu'à au moins 2 km, il y a un monsieur qui était un ancien haltérophile qui achetait tous les mois son livre science-culturisme. Et moi, j'avais 14-15 ans, et donc j'allais chez lui, c'était un voisin qui me montrait les revues, et il y avait Steve Reeves, vous avez connu?
Ah, moi, j'ai pas connu, je vois pas qui c'est, je vais regarder en même temps.
Ah d'accord, il y avait des athlètes comme Steve Reeves, des athlètes comme Rick Park, qu'on voyait aussi dans les films de Plume.
Ça, je connais.
Donc moi, j'allais au cinéma de quartier, il y avait tout le temps... pour le mercredi, des films Peplo, mais je voyais Rick Park et Steve Reeves, et je disais, oh la vache, qu'est-ce qu'ils sont bien, et donc, ce voisin-là, il était vieux, hein, ce monsieur-là, il avait des haltères.
Mais si je me trompe pas, je crois que Rick Park, justement, était un des mentors, ou en tout cas des modèles d'Arnold Schwarzenegger.
Oui, c'est ça, et d'ailleurs, ils ont fait quelques photos ensemble, et donc, ils tournaient dans les travaux d'Hercule, tout ça, puis moi, j'allais voir ça, j'allais voir les westerns aussi, hein, John Wayne et toute l'équipe. Mais quand je voyais ces gars-là, je me disais, oh la vache, qu'est-ce qu'ils sont bien. Moi, j'aimerais bien être comme ça. Pas faire du cinéma, mais mettre au moins comme ça. Et puis, ce monsieur-là, il avait des haltères qu'il me prêtait, donc il me montrait un peu les exercices. Et puis, j'étais trop jeune pour m'inscrire en salle. Il fallait avoir 16 ou 17 ans, un truc comme ça, quoi. Donc, j'ai attendu, puis après, j'étais en salle. Et puis, moi, c'est comme ça que c'est venu. Mais mon modèle, il y avait Steve Reeves et Rick Park. Et puis après, dans les années 70, c'est venu Arnold Schwarzenegger. Mais ça n'a jamais vraiment été mon modèle, quoi, puisque moi, je suis plus attiré par les athlètes, comment dirais-je, comme Frank Zane. Vous connaissez Frank Zane?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un des physiques que je trouve le plus esthétique et équilibré de tous les temps.
Hein. Et Barry Domey, Bob Paris. Enfin, pour moi, c'est des athlètes qui passent partout. Vous voyez? Ouais. L'athlète qui, bon, quand il est en costume, bon, tiens, il est bien, quoi. L'athlète qui passe partout et puis qui porte pas à dire des trucs, quoi, voyez.
Ok, bah ça c'est un peu les stars de l'époque du bodybuilding là. Frank Zane, ouais. Rick Park. Rick Park c'est un peu plus vieux.
Oui, mais moi j'ai vu en 1980 j'ai vu comment il s'appelle Steve Reeves et j'ai vu comment il s'appelle j'ai vu Frank Zane. Ils sont venus à Paris à la Mutualité. Il y avait Lou Ferrigno, il y avait tout ça, quoi.
Ouais.
Et moi, je suis plus attiré par les athlètes passe-partout, quoi. Bon, l'athlète, on tient, il est bien, mais...
Qui sont moins gros, qui sont pas trop trop gros, quoi. Pas trop monstrueux.
Les athlètes de maintenant, là, ceux qu'on voit maintenant, là, oulala, je me pose des questions, quoi, ça.
Mais justement, vous pensez de quoi, de la nouvelle ère du bodybuilding, là? Je sais pas si vous suivez toujours un petit peu, mais dernièrement, enfin, ça a commencé à partir de... Bon, il y avait Ronnie Coleman, évidemment, qui était vraiment énorme ici, mais même avant, hein, ils commençaient déjà à être énormes. C'est quoi votre avis sur ces physiques?
Moi, chez moi, j'ai toutes les vidéos des Olympias jusqu'à 1900, Mr. Olympia jusqu'à 1983-84. Bon, là, les athlètes étaient, ils étaient bien, hein, très, une belle ligne et tout. Mais là, maintenant, je trouve qu'ils se ressemblent tous, en fin de compte. Voilà. Ils se ressemblent tous.
Et au niveau du volume, qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Est-ce qu'ils sont pas énormes?
Oh. Oh, ça fait gros, hein, quand même. Enfin, je sais pas, c'est une affaire de goût, hein. Bon, il y en a qui vont dire, oh, j'adore. Ben, c'est bien. Moi, j'ai le respect parce qu'il y a du travail derrière, quand même. Hein. Il y a du travail.
Mmh. Ouais, mais justement, on est un peu dans une génération du plus gros, des athlètes aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux.
Où ça va s'arrêter, tout ça? Là, il y a la question, parce que j'en vois, mais je dis, c'est pas possible. Comment un squelette, il peut supporter, il peut supporter ça, quoi. Je me pose des questions quand même. Je me dis, est-ce qu'il veut, voilà, comment ça va finir, quoi. Parce que moi, je vois Coleman, là, il est mal quand même, hein. Moi, j'ai du respect. Mais quand je vois Coleman, oh là là, comment il s'appelle aussi, Flex Waller, à qui on a enlevé une jambe, hein, amputée. Et puis moi j'ai vu Momo Benaziza parce qu'il est venu dans ma salle où j'habite à Vitry-sur-Seine. Bon, et, oh là là, il était balèze, hein, un petit homme, hein, balèze, super, un mec super sympa, quoi. Et puis il est décédé à 32 ans quand même. Je trouve que ça fait tôt. Et alors, enfin, ils ont fait un choix de vie.
Ben oui, c'est exactement ça.
Est-ce que ça vaut le coup, comme disait un footballeur américain, il a dit, je préfère vivre dans la richesse et l'opulence jusqu'à 40 ans que de vivre jusqu'à 80 ans comme un être normal, quoi. Enfin, c'est bizarre comme philosophie de vie. C'est pas la mienne, en tout cas.
Ben oui, justement, c'est pas la vôtre. En tout cas, bon, on sait qu'il y a des sacrifices chimiques. Ça, c'est...
Oui, voilà, c'est ça un peu. Bon, moi, j'ai dit non. Alors, on m'a dit, ouais, mais tu resteras toujours sur le plan national.
Mais oui, c'est ça. Mais justement, et comme vous avez décidé de ne pas franchir ce pas et de rester naturel, aujourd'hui, on dit comme ça, naturel. C'est les termes qui sont utilisés.
Moi, j'ai un pote qui m'a dit, moi, je suis l'avenir, toi, t'es le passé. Ben, et je dis, oui, peut-être, quoi. Mais bon, qu'est-ce que c'est l'avenir, j'ai fait. En France, qu'est-ce que c'est l'avenir? Tu crois que tu vas faire du cinéma? Dans les films, tu seras un porte-valise et c'est tout. Hein? Il dit, ouais, mais j'ai dit, mais non. Tu seras un porte-valise dans les films. Tu vas pas faire. On est en France ici, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Et j'ai sacrifié. Non, moi je dis faut s'entraîner. Hein. Tant qu'on peut s'entraîner, on peut s'entraîner. Mais sacrifier sa vie pour ça, il n'y a pas grand-chose à gagner, hein, quand on regarde bien. C'est beaucoup de dépenses pour peu de gains, hein, en fin de compte. Hein.
Et quand vous étiez dans votre période de compétition, pour le coup, est-ce que vous ressentiez physiquement un retard? Un retard important par rapport aux autres athlètes, puisque vous avez décidé de rester naturel. Ouais.
Ce retard, quand on s'entraîne comme ça dans une salle, on le ressent pas. Ce retard, on le ressent quand on arrive le jour de la compétition, quand on est dans les vestiaires avec des gens de nos catégories, en fin de compte, qui sont des fois beaucoup plus gros, beaucoup plus secs. On se dit, oh la vache, il est mieux que moi celui-là. Mais des fois, c'est dans la tête, c'est un peu psychologique. Moi, je me suis trouvé inférieur à certains et j'étais quand même sur la première marche du podium, quoi.
Et comment vous l'expliquez, ça? Le niveau de sèche, la symétrie, le posing?
Le posing, ce n'est que de la chorégraphie, en fin de compte. Moi, je me souviens, j'avais une amie qui était prof de danse qui m'apprenait à moi me présenter comme un ours. Parce que souvent, on arrive là comme des... Elle me disait, non, il faut que tu flottes quand tu marches. Et donc... Elle m'apprenait la gestuelle, un peu la façon de placer mes bras. Parce que souvent, il y a les... D'ailleurs, on le voit dans le film Pumping Iron avec Arnold Schwarzenegger et Procon Colombo. Il y a une prof de danse qui leur donne des cours de chorégraphie à la barre de danse au début du film.
C'est vrai.
Ouais, vous n'avez pas vu le film, non?
J'ai vu le film et je m'en souviens de ce moment.
Et ben, au début, donc, et nous, donc, moi j'avais une amie qui était prof de danse, moderne jazz. Elle me dit, tiens, je vais te montrer un peu tout ça. Et ça sert beaucoup, quoi.
Le posing, c'est un truc, pour ceux qui connaissent, bon, voilà, ils savent, hein, mais la plupart des gens, même ceux qui sont dans la musculation mais qui font pas nécessairement de compétition, ils savent pas, et moi non plus, je ne savais pas jusqu'à que je le découvre, que le posing était vraiment presque un art à part entière, que c'était un vrai travail. J'avais enregistré un podcast avec Jordan Belloun-Joly, justement, c'était le podcast 36, si les auditeurs veulent aller l'écouter, qui ne le connaissent pas. On avait parlé de un peu de tout ce qui est l'art du bodybuilding, et on avait discuter du posing aussi, quoi, et que ça avait vraiment une importance, et puis en fonction de comment se présenter, les lumières, qu'il y avait vraiment, c'était une danse, quoi.
Parce que le posing,
vraiment quelque chose.
Ouais. Pour le posing, vous n'êtes pas obligé d'être musclé pour être, faire du posing, vous voyez. Nous, on avait j'étais dans une salle, et il y avait un prof de danse, un chorégraphe du Paradis Latin, qui venait apprendre la chorégraphie. Le mec, il était bien, mais il n'était pas musclé. Mais il faisait de l'expression corporelle. Donc, il apprenait à certains buddies à avoir une certaine expression sur scène pour être un peu... On prend l'exemple d'un danseur, par exemple, un danseur classique. Quand il porte sa partenaire au-dessus, la fille, elle doit faire 50 ou 52 kilos, il a toujours le sourire. Vous avez remarqué? Il n'a pas le visage qui se crispe. Voilà. Donc, il nous expliquait ça. Un danseur de rock'n'roll, quand il fait tourner la fille autour de lui, il a toujours le sourire. Il en bave, hein, mais il a toujours le sourire. Alors, il nous apprenait l'expression corporelle et l'expression du visage. Je veux dire, on ne pas grimacer quand on faisait des poses. Il fallait que ce soit facile, il fallait que les gens nous regardaient aussi le visage. Donc, il fallait que le visage soit gracieux. Souvent, dans les compétitions, d'ailleurs, on entend les copains qui disent « Souris, souris, n'oublie pas de sourire !» Parce que le gars, il pose et puis il sourit pas. C'est important de sourire. Donc, il y a le sourire, il y a le posing, la musique. Et puis, il faut faire des poses aussi selon sa morphologie. Faut pas dire, tiens, lui fait les poses comme ça, je vais faire les poses comme ça. Faut se connaître, quoi. Faut se dire, tiens, ces poses-là, elles me vont, je vais faire ça, quoi.
Mais justement, ça m'intéresse, là. J'adore la morphologie, moi. C'est un peu mon truc, enfin, entre autres. Comment, c'est quoi les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un, c'est en fonction s'il est petit, s'il est grand, vous avez des exemples précis de position, de posture à adopter selon la morphologie?
Ben disons, pour moi, les poses, ça veut dire faut faire des poses un peu personnalisées. Faut pas essayer de copier un athlète qu'on admire, en fin de compte, quoi. Tout le monde peut pas faire les poses comme Frank Zane. Ouais. Bon, chacun sa morphologie, hein. C'est un peu comme les empreintes digitales. Je pense qu'il faut faire des poses, mais qui nous conviennent. Souvent, on entend des gens, t'as vu les poses qu'il fait, oh, il devrait pas faire ça. Oh, il a pas le corps pour faire des poses comme ça, quoi. Il faut travailler en vidéo, et puis il faut travailler devant une glace, et puis il faut être conseillé quand même par quelqu'un à côté qui dit quelqu'un qui a déjà fait du body, voilà, ou qui fait de la danse, qui pourra dire tiens voilà, fais plutôt comme ça, place plutôt tes pieds comme ça, tout ça. C'est tout un truc, hein. Il faut pas arriver comme ça à la compétition puis dire moi je vais poser comme ça, quoi. Il faut travailler. Il y a pas que l'entraînement, hein, dans le body. De compétition, il y a aussi après l'entraînement, souvent ils vont dans la salle où il y a des glaces partout, la salle de danse, et puis ils travaillent leur pose, leur chorégraphie en musique, et voilà, parce que il faut pas travailler les poses au dernier moment, parce que travailler faire des poses, c'est vachement fatigant, en fin de compte, hein. Faire une minute de pause, c'est compliqué, quoi. C'est très très compliqué. Il faut s'habituer, ça fait partie de l'entraînement, le posing aussi, voilà.
Bon, vous avez arrêté les compétitions, donc à l'âge de 34. Vous avez continué à vous entraîner. Là, depuis ce moment-là, est-ce que vous avez fait des pauses des fois, ou ça a toujours été entraînement tout le temps, tout le temps, tout le temps? Vous n'êtes jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Hein. 70. Je rappelle quand même, parce que je ne sais pas si on a bien retenu, mais vous avez aujourd'hui 70 ans, donc une forme qui semble olympique.
Je le dis jamais aux jeunes filles, mais n'importe comment, quand elles me voient, elles me croient pas. Mais je le dis jamais.
Ouais, mais j'y crois, moi, à ça, là.
Et mon pote Michel Garopolo, lui, il se gêne pas de le dire. Voilà.
Ouais, et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que avant que vous me disiez votre date de naissance, c'est vrai que, au téléphone, enfin, on n'est pas au téléphone, mais en tout cas, en enregistrement, en entendant votre voix, c'est pas l'âge que je vous aurais donné en premier. J'aurais plutôt tablé autour, rien qu'à la voix, hein, à la voix, à la façon de parler, j'aurais tablé autour de 50, quoi, 50, 60. Pas plus, pas plus.
C'est vrai que la voie, elle change avec les, avec la décennie. Elle peut changer aussi.
Bon, et alors, vous êtes toujours entraîné. Ça n'a pas bougé. Et c'est quoi votre routine actuellement? Et alors, est-ce que vous avez toujours la forme? Les barres, elles sont descendues? Vous avez adapté vos entraînements? Comment vous avez évolué?
Disons que moi, j'ai jamais été à la recherche des performances. Je m'entraîne toujours avec des charges moyennes entre 10, 12, 15 répétitions. La force, un entraîneur m'a dit, tu seras jamais un homme très très fort parce que tu as les bras longs. Et j'ai les bras longs, pas comme les singes, mais les bras longs. Donc il faut les gens qui sont très puissants, souvent, ont les bras un peu plus courts que moi. J'ai les bras un peu longs, c'est un peu à mes origines puisque moi mon père est africain, ma mère est française, donc je suis assez j'ai les bras longs quoi pour ainsi dire. Donc on m'a dit que je serais jamais fort, donc j'ai essayé d'être puissant, mais ça passe pas. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, ben, il faut pas continuer. Il faut prendre un entraînement qui convient à sa morphologie, quoi. Voilà. Donc, je m'entraîne quotidiennement. Des fois 5 fois, 6 fois par semaine, puisque j'ai la chance d'avoir la salle à la maison aussi. Et donc, j'ai mal nulle part, pour ainsi dire, puisque j'ai jamais vraiment fait des barres exceptionnelles.
Et c'était puis, quoi, par exemple, vos barres les plus hautes?
J'ai jamais fait plus de 145-150 au développé couché, hein, c'est tout.
Ok, c'est tout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler parce que c'est déjà beaucoup.
Non, mais c'est pas beaucoup. Hein. Non, mais tous les gens vont rigoler. Il y en a qui vont rigoler, des buddies.
Ouais, mais.
Au squat, j'ai jamais passé. Soulevé de terre, j'ai dû faire quoi? 200 soulevé. Au squat, j'ai pas fait plus. Hein. Mais il y en a, ça les fait rire parce qu'ils font peut-être 300 et tout ça. Mais bon, peut-être qu'à 70 ans, ils font plus 300, quoi. C'est ça le problème, quoi. Enfin, chacun fait son truc. Mais moi, disons que j'ai jamais eu un ego surdimensionné pour dire, voilà, je suis plus fort, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la longévité, en fin de compte. Voilà.
Et est-ce que vous avez déjà eu des blessures en musculation?
Eh ben non, justement, non. J'en ai jamais eu, justement.
Jamais. Jamais eu de blessures, de petites douleurs, des tendinites, spasmes, déchirures?
Le problème des fois au muscu, c'est quand un type, des fois, il a mal quelque part. Bon, moi, j'en connais hein, autour de moi qui, quand ils ont eu des blessures ou des trucs, bon, ils vont voir le docteur, donnez-moi ça pour pas que j'ai une mal. Et puis, ils vont se trapper, par exemple, et puis ils vont travailler sur la douleur. Donc, peut-être qu'ils prennent des choses qui vont endormir la douleur, mais la douleur, elle est toujours là quand elle se réveille. Et, parce que le corps, en fin de compte, il y a un signal quand on sent que ça va pas. Faut se dire, ouais, vache, bon, ça va pas, je vais peut-être changer, parce qu'il y a possibilité de faire d'autres exercices. Il y a des gens qui arrivent pas à faire le développé nuque parce qu'ils ont mal, mais ils peuvent faire les élévations latérales, le développé devant, et puis maintenant, il y a les super machines. Je pense que quand on a mal quelque part, faut pas insister. Parce que après, ça peut empirer, et puis, après, ça peut être 6 mois d'arrêt, quoi. Moi, j'ai jamais eu trop mal. Bon, j'ai eu, quelques trucs sciatiques, mais ça, c'était pas dû à ça. Comment ça fait mal? C'est horrible.
Oui, bah, alors j'ai jamais eu moi-même, hein, mais évidemment, je vois souvent régulièrement des personnes en consultation qui ont des sciatiques et
C'était pas dû à l'entraînement. C'était dû à autre chose. Mais je me suis jamais vraiment blessé et bon, par exemple, il peut arriver que des jours on soit plus fatigué que d'autres. Donc si je suis fatigué, je vais dire bon, je vais faire un petit entraînement, mais sympa. Je vais pas puiser dans mes réserves. J'écoute mon corps. Mon corps, faut qu'il récupère. Je suis fatigué, j'ai dit bon ben, je remets l'entraînement à demain et puis on verra bien.
Mais c'est hyper intéressant, excusez-moi, je vous coupe parce que là c'est un point que j'ai envie de creuser un tout petit peu. Cette mentalité de j'ai une douleur, j'ai un petit souci, donc je fais un petit entraînement léger ou alors je force pas ou je remets au lendemain, c'est pas si grave. Cette philosophie-là, est-ce que vous l'avez développée les dernières années, les 10, 20, 30 dernières années, où ça a toujours été le cas? Parce que, on le disait tout à l'heure, quand on est jeune, on a un peu tête brûlée. Et aujourd'hui, bon, en ce qui me concerne, j'ai 30 ans. Je suis ostéopathe, donc j'ai un peu cette vision de la santé. Et puis, je vois des gens, et puis, c'est un peu mon boulot aussi. Donc, j'arrive à, moi, quand j'ai une douleur, à ne pas m'entraîner, ou en tout cas à faire des entraînements qui sont légers, et essayer de voir un petit peu plus long terme. Mais même à 30 ans aujourd'hui, avec les connaissances physiologiques et biologiques que j'ai encore un petit peu de mal des fois à me dire bon ben je m'entraîne pas, ça donne envie quoi. Comment vous l'avez toujours eu, vous l'avez développé, comment c'est arrivé cette philosophie?
Bon ben déjà j'ai un de mes meilleurs amis qui était kinésithérapeute, maintenant il est à la retraite, Bon, il m'a connu, j'étais gamin, tout ça. Bon, on a grandi ensemble, c'est un peu comme un frère. Et donc, il m'expliquait un peu les douleurs musculaires. Il me dit, toi, quand t'as un truc comme ça, une déchirure musculaire, admettons, ça peut t'arriver. Faut surtout pas t'entraîner dessus parce que bon, ça peut se déchirer un peu plus. Faut laisser reposer le muscle parce que le muscle va se régénérer. Mais ne fais pas dessus, ne t'entraîne pas dessus, quoi. Donc moi, j'ai connu ça très tôt, quoi. Et puis, j'ai eu des exemples de copains qui font de la muscu, de la force, qui même malade à crever, allaient s'entraîner. Il avait mal, par exemple, au coude, c'est pas, je vais strapper, il mettait des trucs autour du coude, c'est pas grave, faut y aller, la douleur, elle va passer, quoi. Et puis après, il se retrouve avec des douleurs, des trucs un peu bizarres, quoi. Moi, je voulais pas que ça m'arrive, quoi. Moi, je veux pas à 70 balettes être grabataire, quoi. J'ai une fille et une petite fille, quoi. Faut que je puisse courir avec ma petite fille quand même un peu plus tard. Donc moi, je voulais pas arriver à ça. Non, ça m'intéressait pas. Puis prendre des trucs pour calmer la douleur. Bon, y a toujours des contre-indications, quoi. Bon, au niveau de l'estomac, des intestins, ouais, des trucs. Oh. Non, ça me disait rien du tout, ça, tous ces trucs-là. Je suis fatigué. Je m'entraîne. Bon, mais je m'entraînerai demain. Je fais un autre exercice. Bon, si j'ai mal là à l'épaule, ben, je vais faire un autre exercice. Voilà, on arrive à connaître son corps et puis on arrive à trouver des exercices qu'il nous faut, même quand on est un peu traumatisé, quoi. On arrive toujours. Mais forcer sur la douleur, je dis que c'est pas bon. Même en prenant des cachets pour se calmer, ça calme la douleur, mais on croit qu'elle est calmée en fin de compte, mais elle est pas calmée, la douleur, elle est toujours là. Et puis quand elle revient, ça peut être pire. Puis après, le pire, bon, alors là, après, donc, le gars peut pas s'entraîner pendant 3 mois. Alors après, ça joue sur le moral, hein. C'est un peu comme le Covid quand on peut pas sortir, quoi. Vous voyez, ça joue sous le moral. Le gars, je peux pas m'entraîner. Les performances vont descendre. Il se lève, il se voit tout maigre, hein. Vous voyez, non, je pense que quand on est blessé, bah, il faut être sage. C'est une question de sagesse. Mais malheureusement, dans le body, la sagesse, des fois, ça, elle est pas là, quoi. Elle est pas là.
Ouais, j'argumente pas plus que ça parce que je soutiens ce que vous dites, hein, quand il y a une douleur, on évite de s'entraîner sur la douleur. Donc ça paraît assez clair.
Et puis quand on a mal à l'épaule, admettons l'épaule elle va pas, ben on a tous un point faible. Qu'on fasse du sport ou pas en muscu, on a tous un point faible. Bon, ben, le gars il dit bon ben comme j'ai mal à l'épaule, ben, comme j'ai les mollets qui je vais peut-être bosser un peu plus les mollets, je vais peut-être plus travailler les ischio-jambiers parce que je manque de scie. On peut se rattraper sur d'autres muscles. Quand en normal, on se dit oh c'est pas utile, on les voit pas quoi. Vous voyez par exemple, j'ai du mal à faire mes épaules, ben ça fait rien. Je vais faire peut-être plus d'abdos, peut-être plus de cardio et puis après on verra quoi. Enfin moi je vois ça comme ça. Hein.
Et aujourd'hui c'est quoi votre routine un petit peu au jour le jour, au quotidien, vos routines ou en tout cas les actions que vous mettez en place, hormis de s'entraîner chaque jour qui est déjà une énorme action pour maintenir longévité, santé, qu'est-ce que vous faites de plus?
Ben, j'essaie déjà de manger sainement et de pas me gaver. En fin de compte, j'écoute mon corps. Je mange. Moi, je suis à la retraite, hein. Je travaille plus. Je pense que toute notre vie, on est conditionné par les horaires, le temps, du jour où on est jusqu'à la retraite. Parce que bon, il y a les horaires à respecter. Quand on est bébé, il y a l'heure du biberon, il y a tout ça. Faut se coucher. Quand on est ado, il y a les études, tout ça et tout. Faut manger à l'heure. Quand on travaille, faut manger peut-être entre midi et 1h30. Le soir, faut manger à 7h parce que c'est comme ça. Mais depuis que je suis à la retraite, je mange quand j'ai faim. Un peu comme les animaux, un peu comme les chiens. On lui met sa gamelle, le chien, il va manger à 10h le matin, midi à 3h, on s'en fout. Voilà, je mange quand j'ai faim. Et je mange pas parce que c'est l'heure, vous voyez. Et, je me porte beaucoup mieux comme ça. Et puis, je mange que des choses, j'essaye de manger le plus sainement possible. Et puis faire mon sport et puis voilà, c'est tout simple en fin de compte, hein. Faire son activité physique tous les jours, être bien dans sa tête, manger sainement et puis pas se prendre le chou, quoi. Voilà.
Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires particuliers?
Ah bien sûr, je prends des compléments alimentaires. Ouais,
dites-moi, qu'est-ce que vous prenez? On a envie de savoir. Pour avoir la même forme à votre âge, on a envie de savoir c'est quoi la poudre miracle.
Bon, déjà, à la base, j'ai une alimentation qui est quand même assez protéinée, quand même. Si c'est pas de la protéine animale, ce serait de la protéine végétale. Moi, je mange beaucoup de lentilles, haricots rouges. Moi, j'ai toujours mangé des lentilles, des haricots rouges, même petits, hein. Lentilles, haricots rouges, soja, tofu, tout ça. et bien sûr des légumes, mais les légumes, je ne les mange que par soupe. Il y a que en soupe que ça passe. J'ai du mal à manger des légumes. C'est un peu comme les gosses, c'est compliqué pour moi. Mais sans ça, je prends des protéines. Je prends de la whey. Je fais des cures de la créatine. Qu'est-ce que je prends encore? De la BBCA. La BCA, c'est ça, la BBCA?
Ouais, les BCA, les acides aminés ramifiés.
Oui, je prends ça aussi. Mais c'est tout, hein, sans plus.
Ok, pas de compléments à visée articulaire ou tendineuse, je pense à du collagène ou à la chondroïtine, des choses comme ça.
Non. Je fais aussi pas mal de cures de oméga 3 aussi. Oméga 3 et puis comment ça s'appelle ce truc vert là qu'on achète là qui a dans la mer, j'ai pas le nom. Mais...
La spiruline peut-être.
La spiruline, voilà, de temps en temps, tous les 3 mois, une cure de spiruline, voilà.
Ok, j'ai jamais pris de la spiruline, moi. Qu'est-ce que vous recommandez?
Il y en a en poudre, il y en a en gélule. C'est pas très bon au goût, quoi.
Faudrait que je demande à Michael Gundil, tiens, je pense que lui pourrait me dire exactement.
C'est bon pour la santé. Et puis de temps en temps, quand j'arrive à en trouver, une cure de gelée royale. L'hiver, c'est très très bon, ça aussi. Bon, j'essaie de rester. Le plus naturel possible, quoi. Parce que je pense que maintenant, avec les compléments alimentaires qu'on fait maintenant, ce qu'il n'y avait pas, ça fait 20 ans ou 30 ans, je pense qu'en muscu, un athlète, il peut arriver quand même à un beau niveau. Sans passer la ligne jaune, comme on dit. Voilà.
Et quelle différence vous avez notée dans votre forme? Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une fatigue qui arrive plus vite depuis, là, si on compare votre entraînement en ce moment, enfin, votre routine d'entraînement, vous avez donc, on le rappelle, évidemment, 70 ans, continuez à vous entraîner 5-6 fois par semaine. Quelles sont les différences que vous constatez par rapport à il y a 20, 30, 40 ans? Peut-être sur la récupération, sur la force, est-ce que vous avez perdu de la force? La masse musculaire a diminué aussi naturellement, même si vous continuez à vous entraîner?
Ben non, justement, bon, moi, ça fait 30 ou plus que ça. Moi, je m'entraînais des fois un peu comme un idiot parce que j'allais plus loin que mes ressources. Enfin, quand j'adaptais pas mon entraînement tellement, quoi. Je pouvais encore, il y a toujours des gens qui nous poussaient pour aller plus loin. Mais là, j'ai adapté mon entraînement à mon âge, en fin de compte.
Et alors, comment on s'entraîne à 70 ans? J'ai envie de savoir.
Voilà, ça fait une trentaine d'années, on dit l'avenir dans la muscu, on va faire mal, on va faire de la compète, on fait tout ça, quoi. Mais arrivé à un âge, notre avenir, il est derrière nous, en fin de compte. Ce qui nous intéresse, c'est juste nous maintenir physiquement. Donc moi, j'ai un entraînement qui est approprié à mon âge, en fin de compte. Voilà. Disons que la force, je peux pas dire j'en ai fait beaucoup, mais ça va, ça pousse bien encore. Mais voilà, ce que je recherche, c'est surtout durer longtemps. Donc la fatigue aussi, et des fois elle est due aussi quand on s'entraîne, on va au travail, on a une vie active. Mais moi, étant à la retraite, la fatigue, je la sens pas, pour ainsi dire, parce qu'une fois que j'ai fini de m'entraîner, moi je peux faire la sieste, je peux récupérer comme je veux, quoi. C'est pas comme un actif, un mec qui bosse, qui va s'entraîner à 18h le soir. Moi, je suis chez moi, je m'entraîne quand je veux. Si je suis fatigué avant, je me repose avant. Si je suis fatigué après, mais je suis rarement fatigué, pour ainsi dire. Puisque j'ai plus de vie professionnelle. Mes entraînements ne durent pas plus d'une heure, en fin de compte. Avec des temps de repos de 30 secondes, pas plus. Vous voyez? Et donc, je cherche pas je vais pas au bout. Disons que quand j'ai fini mon entraînement, je suis encore capable de descendre, d'aller faire mes courses, je sens aucune fatigue, en fin de compte. Voilà, c'est un truc que je ressentais, ça fait une trentaine d'années.
Au niveau de l'organisation et du programme d'entraînement, est-ce que vous êtes sur un split, comme on appelle ça, donc une découpe des différents muscles par semaine, ou quel est le format que vous avez choisi, en tout cas que vous pratiquez actuellement?
Ah ben là, donc, étant chez moi, j'ai la possibilité de m'entraîner deux fois par jour. Bon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le lundi, je vais faire... pectoraux le matin, entre 9h et 10h. Et le soir, entre 18 et 19h, je vais faire biceps, triceps. Je coupe mes entraînements en deux. Je fais pas un entraînement total parce que c'est ça qui risque de fatiguer. Parce qu'avant, quand j'étais actif, il y avait ça, il y avait le boulot, il y avait tout. Donc, il fallait que je groupe mon entraînement. Là, je peux m'entraîner en deux fois. Le lendemain, je vais faire dorsaux-épaules le matin. Le soir, je vais faire abdos. Le mercredi, je vais faire... cuisse, mollet, biceps, triceps. Donc en fin de compte, je ressens pas la fatigue, puisque mon entraînement il est divisé en deux. En fin de compte, je m'entraîne en fin de compte comme les grands champions, mais dans le but d'être un champion. Donc j'ai adapté mon entraînement parce que je connais mon corps. Depuis le temps, je connais mon corps. Je sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et donc moi, j'ai adapté mon entraînement comme ça. Peut-être d'autres qui ont mon âge vont l'adapter autrement. Mais moi, ça me convient. Deux séances, une séance le matin d'une heure et une de 45 minutes le soir. Ça me convient très bien avec une journée ou deux journées de repos. Ça dépend, le samedi ou dimanche. Mais le dimanche, je vais faire du cardio puisque j'ai un vélo, un bike chez moi. Je vais faire du cardio pendant une heure en regardant ma série préférée. Voilà. Je me suis adapté mon entraînement à mon âge, sans me fatiguer, pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais je fais pas ça pour me montrer ou pour dire voilà, c'est moi Jeff et tout. Non, je suis content.
Et vous connaissez beaucoup de personnes de cette même tranche d'âge qui s'entraînent, qui continuent à faire du bodybuilding, de la musculation, du culturisme.
J'en ai vu, mais bon, disons que moi je trouve ça un peu arrivé à un âge pour prouver quoi ? Qu'on a un beau papy. Non, je vois pas le truc, franchement. Je vois pas le coup de se défoncer après 65 ans comme ça. C'est un peu comme au boulot, quoi. Bon, à 65 ans, ben, on laisse le boulot, on part à la retraite. Bon, on continue si on veut travailler, faire son jardin, bricoler chez soi. Mais monter sur scène à 70 ans, je trouve que, oh, je sais pas, moi déjà à 35 ans, ça me cassait les pieds, quoi. J'y dis, allez, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire, t'es content. Mais là, après, non, moi, je me vois franchement pas, à mon âge, encore monter et puis me faire applaudir et tout, non, franchement.
Et vous en connaissez beaucoup, quand même, de bodybuilder, de senior, comme on appelle ça.
Dans les plus de 60 ans, il y en a pas mal, hein, ouais. Dernièrement, j'ai été à l'Open des Corsaires, à Saint-Malo, ouais, il y en a beaucoup, ils sont bien, les gars, hein, ils sont bien. Hein.
Alors, qu'est-ce qui les pousse à continuer, si vous voyez pas trop d'intérêt personnel à ça?
J'ai eu l'exemple d'un athlète une fois qui avait mon âge. Enfin, je parle de ça fait 5 ans. Il montait sur scène et quand je lui ai dit, mais on a fait des compétitions ensemble, j'ai fait, rappelle-toi, ça fait 30 ans. Pourquoi tu montes sur scène encore? Parce qu'il m'a dit, tu sais, il avait besoin d'être applaudi, il avait besoin d'être adulé, d'être reconnu. Parce qu'en fin de compte, des fois, je me pose la question si c'est pas de la reconnaissance. Ce besoin d'être enfin, je sais pas, je vois ça comme ça, hein. D'être applaudi, d'être reconnu, voilà, monter sur scène, arriver à un rush, je sais pas, on est papy. Enfin, je trouve on peut s'entraîner, bien sûr. Aller voir les copains à l'entraînement, aller voir les copains au concours, les encourager, même leur donner des conseils par notre expérience. Mais monter sur scène, je comprends pas trop, quoi, qu'on monte sur scène à 70 ans, mais c'est bien, parce que c'est quand même, ça peut montrer aussi à d'autres personnes que, à 70 ans, on peut être bien. À condition, bien sûr, de s'être toujours entraîné. Une personne qui a 70 ans qui va à la salle, faut pas qu'elle rêve non plus. Mais ça peut montrer aussi, mais sont quand même des exemples. Mais moi, personnellement, je me vois pas. Pourtant, Michel Garopolo m'a dit, ouah, t'as vu comment t'es bien? J'ai pas de fonte musculaire. Et on m'a dit, oh, tu pourrais faire ça aux vétérans, mais je dis non, qu'est-ce que je vais monter sur scène à mon âge, franchement.
Est-ce que vous passez des tests ou des examens de sang pour voir un petit peu l'état, le bilan global de santé? Ça vous arrive de temps en temps?
Oh, c'est la dernière fois que ça m'est arrivé, ça doit faire 2 ans. L'avant-dernière fois, c'est quand je suis parti à la retraite. Donc c'est à 65 ans, puis ça fait 2 ans, ils ont rien trouvé, pour ainsi dire. Ils ont rien trouvé. Ils ont peut-être rien voulu me dire non plus, hein. On sait pas.
Oh. En général, quand ils trouvent quelque chose, ils disent, hein.
Ouais, mais n'importe comment, je vais vous dire une chose, les toubis, c'est un peu comme les garagistes. Vous allez au garage avec une voiture neuve qui sort de chez Renault, toute neuve de l'usine, ils vont quand même trouver quelque chose. Et les toubis, c'est pareil, ils trouvent toujours quelque chose.
Ouais, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un toubib, à part ça?
Ça fait 2 ans, mais l'avant-dernier toubi que j'ai vu, ça fait une dizaine d'années, il m'a dit, monsieur Bonner, faites attention à la musculation, vous pouvez avoir un problème au niveau du cœur. Mais lui, il est mort, ça fait 4 ans quand même. Hein. Et pour eux, Ah, la muscu, vous comprenez, c'est pas bon. Mais eux, ils voient le côté négatif par certains exemples, peut-être de personnes, quoi. Mais ils voyaient pas le côté bonne santé, parce que moi, je pense que si tout le monde faisait un peu de muscu, pas à outrance, mais de la culture physique, ça dégorgerait les cabinets du médecin quand même. Ça dégorgerait un petit peu.
Je suis assez d'accord avec vous.
Mon docteur m'a dit une fois, parce que moi j'habite au 8e étage, je monte à pied tout le temps, et je l'ai croisé, lui il a pris l'ascenseur, il est allé au 3e. Ah, il m'a dit, ah monsieur Bonner, si tout le monde montait 5 étages par jour et mangeait une pomme avant de se coucher, ça me laisserait le temps d'aller jouer au tennis. Voilà. Parce que les gens montent pas à pied, et puis manger une pomme tous les soirs avant de se coucher, il paraît que ça baisse le taux de cholestérol. Voilà ce qui m'a fait comprendre.
Très bien. Bon, on retient le conseil et l'idée.
Voilà, moi c'est un peu ma philosophie de vie, faire de la culture physique, mais le plus longtemps possible, et puis pas me faire mal à l'entraînement. Voilà pour eux.
Bon, c'est super. J'ai une petite question un peu plus personnelle pour le coup. Est-ce que vous avez déjà consulté en ostéopathie, admettons ?
Non, justement, non.
Est-ce que vous connaissez l'ostéopathie ?
J'ai entendu parler. J'ai quelques amis qui ont eu, qui ont été, mais moi, j'ai pas été pour ainsi dire.
Ok. Bon, on en rediscutera un petit peu en privé. Comme ça, si vous venez, je le dis en public, si vous venez à Montréal passer des vacances, vous pourrez venir me voir en consultation d'ostéo. Je vous offre la consultation.
Voilà. J'attends mes billets d'avion. Hein.
Dès que les frontières réouvrent, vous pouvez venir.
Ah, franchement, j'aimerais bien retourner quand même là. Franchement, ça m'a assez manu.
Bon voilà, bon, l'ostéopathie, on va pas le développer aujourd'hui là parce que ça fait, je pense que l'épisode il est assez intéressant comme ça, sans forcément aller là-dessus.
Après des années, vous allez pas me le montrer en 5 minutes. Quoi.
Non, c'est un peu, on peut résumer les choses, mais ce que je vais plutôt faire, c'est renvoyer les auditeurs pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui et l'épisode grâce à cet épisode là. Ce que je peux faire, ceux qui sont curieux, qui veulent en savoir un peu plus sur l'ostéopathie et en quoi elle peut aider les athlètes, les sportifs, moi j'adore travailler avec la morphologie aussi, je les renvoie peut-être sur des épisodes comme l'épisode 43 avec Alexandre Auffray, où on parle un peu des différences et des différentes idéologies qu'il y a entre l'ostéo et la kiné. Vous allez comprendre pas mal de choses sur la santé et le corps. Je peux vous renvoyer aussi à un épisode que j'ai fait avec tout simplement Thomas Desroux aussi, c'est un des premiers épisodes, le podcast numéro 9, et ça va vous donner une bonne vision de ce qu'est l'ostéo. Il y aura d'autres épisodes qui vont venir, et puis l'épisode avec David Keane aussi, que j'ai enregistré, l'épisode 50, qui n'est pas sorti au moment où on enregistre cet épisode, mais qui le sera lorsque cet épisode sera en ligne. Épisode 50, David Keane, qui est une personne qui n'est pas un influenceur, c'est pas quelqu'un qui a des tas de personnes sur les réseaux. Par contre, c'est un ostéo qui a un parcours hyper intéressant, et on a eu des discussions qu'on pourrait qualifier de plus ou moins privées habituellement et qui sont partagées sur ce podcast, sur les réflexions qu'ont les thérapeutes, sur ce qu'ils se disent, sur comment on voit les choses, comment on voit la prise en charge d'un patient, comment on voit justement les différents types de patients qu'il y a entre celui qui n'a pas conscience de son corps, celui qui a conscience de son corps, qui fait du sport, et ça revient parfaitement à ce qu'on disait aujourd'hui, c'est-à-dire faire du sport, s'entretenir, ça change quand même la donne, à la fois pour soi, hein, on voit bien que bon, vous tenez une forme incroyable, et puis ça change aussi beaucoup de choses pour le thérapeute, et non pas qu'il faille nous faciliter la tâche absolument, mais ça facilite la tâche à vous aussi, quand vous avez une douleur et que vous prenez conscience que vous êtes actif dans votre guérison, et que vous êtes conscient de votre corps, tout simplement, ça sera beaucoup plus simple de guérir avec l'accompagnement d'un thérapeute, que ce soit un ostéo ou autre chose. Donc voilà, petite publicité pour cet épisode avec David Keane, que moi j'avais adoré enregistrer. Et puis j'ai adoré enregistrer cet épisode aujourd'hui aussi avec Jeff, c'était super.
Ça m'a fait plaisir, hein. je craignais au début parce que c'est la première fois. Hein. C'est la première fois.
Il faut une première fois à tout.
J'ai été interviewé plusieurs fois, hein, en direct au Salon du Fitness à Paris. Plusieurs fois, bon, sur ma façon de voir les choses et tout. Ben, les gens étaient contents d'ailleurs. Mais là, ça m'a fait plaisir, parce qu'un podcast, comme Michel Garopolo m'a dit, j'écoute Michel, j'ai pas l'habitude, il me dit, vas-y, tellement insisté. Mais Michel, c'est un ami, À chaque fois qu'il me dit un truc, je dis écoute, ça me casse les pieds. Et puis à chaque fois que j'y vais, ben, je suis vachement content.
Voilà. Allez, voilà. Ben alors on lui passe le bonjour et on le remercie, Michel.
Ouais, ouais, c'est un super pote, Michel. Ouais, je l'adore. Et c'est un très, très bon photographe. Un très, très bon photographe.
Bon, pour finir ces épisodes, j'ai toujours l'habitude de poser trois petites questions de fin qui sont toujours les mêmes. On va voir comment vous allez vous en sortir. Non, il n'y a pas de piège. Première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le alors 10 ans, bon, peut-être, on va dire 30 ans, on va essayer d'adapter ça à la situation d'aujourd'hui. Si on pouvait revenir 30 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que vous aurez besoin d'entendre?
Le meilleur conseil? Ah ben, pff. Mais non, vaut mieux faire un beau vieux qu'un beau jeune, c'est tout. Voilà, mais je pense que je referai le même chemin en fin de compte. Je referai le même chemin. Faut pas avoir de regrets dans la vie, n'importe comment. Tout est écrit, hein. Mais non, je pense que je ferai la même chose en fin de compte. Voilà.
Ok. Deuxième question. Est-ce que vous avez eu un modèle ou un mentor, hormis ceux qu'on a cités aujourd'hui, qui vous a accompagné dans votre parcours, dans votre philosophie, dans votre vie tout simplement, et qui peut être encore un mentor aujourd'hui?
Non, 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 je pense pas, non. Je me suis fait tout seul, en fin de compte, non. Non. Pas de mentor, non, non.
Votre mentor, c'est vous?
Oui, parce que bon, non, ressembler à quelqu'un d'autre, non, non, je vois pas, non.
Ok. Troisième et dernière question. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué et que vous avez envie de recommander?
Un livre?
Un livre, oui.
Bon, voilà, en vérité, je ne lis pas beaucoup. Enfin, parler de bouquins de grands auteurs.
Je parle pas de grands auteurs particuliers, je parle pas d'un domaine spécifique, on n'est pas forcément dans le body, dans l'entraînement, c'est de manière générale. Hein.
Quand j'étais gamin, j'ai lu toute la collection, tout l'univers. Est-ce que vous connaissez?
Non, je crois que je connais pas. Enfin, j'ai l'impression que je peux connaître, mais il va falloir que vous me rappeliez un petit peu ce que c'est.
Je me suis très peu intéressé aux grands auteurs, tout ce que lit. Moi, ma femme, elle lit beaucoup des romans, des trucs comme ça. Mais ça me saoule un peu. Je préfère lire les choses vraiment qui vont un peu. Bon, je veux pas dire que les gens qui lisent les grands auteurs sont pas cultivés en fin de compte, mais je préfère lire beaucoup plus des livres de sciences naturelles ou enfin tout l'univers. Ça parle un peu de tout l'univers, tout ce qu'il y a sur Terre, enfin les animaux, les plantes et puis tout ça quoi. Ça m'intéresse beaucoup plus que lire un roman d'amour ou un roman policier. Un roman d'amour, ça me saoule un peu. Roman policier, non. Je suis plus cinéma. Voilà. Je suis plus cinéma.
Alors, quel est votre film favori?
Ben, disons que j'aime tous les genres de films, hein, fin de compte. Que ce soit western, science-fiction, dramatique et tout. Film d'amour, j'évite un peu parce qu'ils sont toujours beaux, ils sont toujours riches là-dedans. Mais dans la vie, c'est pas ça, en fin de compte.
Ah ben, faut bien vendre du rêve, hein, parce que sinon, on est tous déprimés.
Non, 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 c'est vrai. J'aime bien. J'aime le cinéma parce que là, j'ai devant moi l'encyclopédie du cinéma. J'ai une DVD tech. J'aime que ce soit les westerns, les films policiers. Tout dépend comment je suis luné. Des fois, il m'arrive d'avoir envie de western. Des fois, j'ai envie de films policiers. Ça dépend. Hein. Des fois, j'ai envie d'un bon Laurel Hardy ou des fois de films d'horreur. Donc, j'ai tout ce qu'il faut chez moi pour me faire plaisir, en fin de compte. Tout dépend, mais je peux pas dire que j'ai des films préférés. Il y en a un quand même qui m'a marqué, je vais vous dire une chose, c'était en 1981, c'est Elephant Man.
Ah oui.
Celui-là, il m'a laissé...
De David Lynch, je crois même. Hein.
David Lynch, ouais, ouais.
Avec Anthony...
Avec John Hurt.
Anthony Hopkins aussi.
Qui m'a choqué dans ce film-là, parce que moi, quand je regarde un film, il faut pas me casser les pieds. Ça veut dire que je rentre dans le film. Je suis dans le film, moi. Je rentre dans l'écran. Et donc, je me suis mis à la place de John Merrick. C'est le nom de Elephant Man, hein, John Merrick. Mais comment il a vécu, comment il a pu vivre comme ça? Et là, je me suis posé des questions. J'ai vu le film 3 fois. Et je me suis dit, mais comment il a pu supporter ça? Parce qu'il n'était pas idiot, en fait, quand il était intelligent. Comment un être intelligent, il peut supporter d'être abandonné par sa mère, d'être dans un cirque comme monstre? Je me suis dit, putain, mais quelle souffrance. Ça, ce film-là m'a choqué. Et le deuxième, c'est Midnight Express.
Ah ouais, sur les prisons turques, ouais. Quand
Voilà,
ce il essaie de faire passer de, il essaie de faire passer de la drogue et puis il se fait choper à l'aéroport.
Mais je me suis dit quand même comment. Voilà deux films qui m'ont que j'ai vus en 1981 d'ailleurs. C'est ce film qui m'ont marqué. Mais les autres non. C'est du divertissement. Bon, j'apprécie les prouesses quand même techniques quand on voit Avatar. Parce que moi je suis dans la, moi je fais de l'informatique. J'ai dit mais comment ils font les mecs avec les logiciels de en 3D comme ça là, mais j'admire le travail en fin de compte. Mais c'est de l'illusion quoi.
Bon ben en tout cas ouais non mais Midnight Express et Elephant Man c'est deux excellentes recommandations. J'ai vu les films il y a quelques années aussi, c'est super surtout en cette période de d'arrêt un petit peu de confinement, je sais pas quand sortira l'épisode, ça se trouve tout sera déconfiné et je pense pas et peut-être que les vaccins seront déjà là et que tout le monde sera bien, mais dans tous les cas ces deux films vous pouvez les regarder si vous avez du temps, on conseille de les regarder.
Oui, c'est vraiment deux films qui m'ont marqué. Pour les autres, bon, non, les autres, j'ai les souvenirs à tout ça. Mais ces deux-là, ils m'ont vraiment, et c'était en 1981. Donc, quand j'ai vu Elephant Man, après, quand je suis sorti, j'étais mal toute la journée. Parce que je me suis dit, alors on m'a dit, attends, c'est qu'un film. J'ai dit, oui, c'est qu'un film, mais il est tellement bien réalisé, en plus. Et que je me suis dit, comment on peut vivre comme ça, quoi? C'est affreux, quoi. C'était affreux au siècle dernier. C'est vrai, hein. Et bon, ces deux films qui m'ont marqué. Mais pour les autres, non, ça va, hein.
Bon, et si on veut en apprendre un petit peu plus sur vous, qu'on souhaite vous contacter, ou est-ce que il y a un endroit où on peut le faire, ou alors vous souhaitez pas être contacté, vous ne voulez pas être dérangé?
Ah ben non, moi si on me dérange pas, bon, non, quand c'est des trucs comme on l'a fait là, ou d'autres personnes qui me contactent, bien, non, il n'y a pas de problème. Bon, on me dérange pas.
Je laisserai votre Facebook dans les notes, dans la description de l'épisode, comme ça, si certains veulent prendre contact avec vous pour un projet pro ou pour vous poser quelques questions, ils pourront directement passer par votre profil Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le problème des projets pro, c'est que, vous voyez, moi je fais de la vidéo, hein, mais je suis un amateur en vidéo, hein, voilà. Certains disent, t'es un amateur, Jeff, mais tu bosses comme un professionnel. Mais je connais des professionnels qui travaillent comme des amateurs aussi, hein, vous voyez. Mais bon, moi, ce qu'il y a, c'est que on me propose des fois de faire des vidéos, mariage, tout ça, mais j'aime pas trop. Moi, j'ai travaillé 43 ans et j'ai plus envie de. Enfin, tout ce qui est projet, quand c'est un projet comme on fait, nous discuter, je suis d'accord. Mais quand c'est un projet, un travail et tout, j'ai pas trop envie de le faire, quoi. Mais... Parce que là, si on fait ça, je vais être sollicité. Hein. Les gens vont dire tiens et tout, les idées et tout. Mais...
Je suis pas obligé de laisser votre contact en bas de la description. Hein. C'est comme vous voulez.
C'est en musculation, bon, je vais donner des idées à des jeunes, mais les jeunes, ils vont pas m'écouter parce que maintenant, ils veulent briller. Moi, je les connais, les jeunes, hein. Ils veulent briller, ils veulent aller vite, ils veulent aller vite, ils veulent crier les étapes. Or, si je leur dis, oui, faites comme moi, ils vont dire, ouais, mais vous êtes un vieux, vous êtes un... Une fois, on m'a dit, vous êtes un dinosaure, on m'a dit. Eh?
C'est peut-être un compliment, figurez-vous.
Oui, mais les dinosaures, on en parle encore, et puis les dinosaures sont quand même un peu la base de tous les animaux qu'il y a maintenant. Donc, dinosaure, ça m'a pas gêné, quoi. Mais souvent, non, donner des conseils en muscu, non. Bon, il y en a qui seront d'accord avec moi, il y en a plein qui seront pas d'accord. Mais bon, moi, le principal, c'est que je sois d'accord avec moi-même. C'est ça qui est bien.
Ouais, mais en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir partagé toute votre expérience et puis d'avoir fait passer quelques messages que je trouve bon à faire passer en cette période, en cette génération, enfin, cette ère, on va dire. Donc, et puis ça donne un sacré espoir dans un sens et ça donne envie de s'entraîner donc pour sa longévité. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aimeraient beaucoup avoir votre forme à votre âge.
Je conseille à tout le monde de. Bon, vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquent en musculation. Oh, t'as vu ça, bababa. Moi, l'autre fois, j'ai un voisin qui a dit comme ça. Ouais, mais toi, avec tes filles musclées, je parle pas des filles qui font du bodybuilding. Ce qu'on voit des fois aux États-Unis, c'est un peu poussé quand même. Hein. Parce que moi, j'aime bien un peu le côté féminin. Vous voyez? Donc j'avais posté une fille qui fait du body fitness bikini, très bien. Donc ce voisin m'a dit ouais mais t'as vu avec tes filles musclées, on dirait des mecs. Mais je me suis aperçu que la plupart des gens qui disent ces filles-là, on dirait des mecs, souvent eux-mêmes n'ont pas des corps de mecs. J'ai remarqué. C'est vrai. Comment on peut dire ces filles-là ont un corps de mec et en se regardant dans la glace et en n'ayant déjà pas un corps de mec nous-mêmes quoi. Voilà. C'est quoi un corps de mec? Voilà, parce que dans le règne animal, comme j'ai dit, dans le règne animal, les femelles sont actives, la lionne elle va à la chasse, Le lion, il reste à regarder les petits. Les guenons, elles vont cueillir les fruits. Les mâles, ils gardent les petits. Dans le règne animal, les femelles sont la mante religieuse. Elle fait l'amour et elle bouffe le mâle. Bon, non, mais c'est vrai, c'est des exemples comme ça. Et puis, pourquoi elle ressemblerait à un mec? Dans les courses hippiques, les juments et les chevaux courent ensemble. C'est mixte. On voit souvent la jument qui a gagné le cheval. Ah ouais, mais non, je vois pas pourquoi un corps de mec. Non, ressemblez déjà vous à des mecs avant de juger, j'ai dit. Enfin, je me suis fait engueuler, bien sûr. Mais enfin, je m'en fous, c'est ma façon de voir.
Ah, super, je trouve que c'est une excellente conclusion. J'ai envie d'en rester ici parce que je trouve ça très drôle et en même temps assez sensé. Je rappelle pour tous ceux qui ont écouté ce podcast sur YouTube, je sais pas s'il y en a, il y en a pas beaucoup, hein. Généralement, les gens ils écoutent sur les autres plateformes, mais je tiens justement à le préciser. Les podcasts sur YouTube, c'est bien, mais vous pouvez aussi les écouter sur Apple Podcast, qui est l'application pour iPhone, ou même sur Spotify, que vous pourrez retrouver sur n'importe quelle, c'est une application que vous pourrez retrouver partout. Toutes les applications de podcast. Vous retrouverez le podcast Biomécanique. Pour ceux qui découvrent cet épisode ou d'autres épisodes sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran et puis rejoignez les auditeurs. YouTube va peut-être me censurer ou ne pas m'aimer parce que je retire ces auditeurs, mais vous serez beaucoup mieux sur les applications à écouter les podcasts que plutôt sur YouTube. Donc rejoignez-nous sur ces applications, on est plus nombreux, on est plus fort et c'est quand même beaucoup plus pratique. Une dernière chose, hein, si vous avez apprécié cet épisode, évidemment, Jeff, ça compte pour vous, et puis je m'adresse en même temps à tout le monde, c'est que vous pouvez laisser une note si ça vous a plu, si vous avez adoré le témoignage de Jeff, laissez une petite note sur l'application Apple Podcast cette fois, si vous l'avez, si vous avez un iPhone, c'est l'application avec un micro, l'application violette, vous pouvez laisser un commentaire et une évaluation, ça aide à remonter un peu dans les charts, ça...
J'espère qu'ils diront des bonnes choses quand même.
J'ai la chance d'avoir des auditeurs très bienveillants qui laissent que des bonnes évaluations pour l'instant. Donc, il n'y a aucune raison. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison qu'ils laissent une mauvaise note par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. J'en suis persuadé. Je vois pas qui pourrait ne pas être d'accord. Et puis, s'il y en a qui sont pas d'accord, dites-le-moi en privé. Ça sera une super occasion d'en discuter, justement. Voilà. Et puis, partagez cet épisode. Envoyez-le à vos amis. Partagez-le sur les réseaux sociaux. Propagez la bonne parole.
Par contre, en privé, je vais vous envoyer l'adresse d'une de mes meilleures amies, qui est une praticienne aussi. C'est une praticienne, et donc quand je lui ai dit que je faisais un podcast avec vous, elle m'a dit « Oh, n'hésite pas, Jeff, fais-le, tout ça. » Bon, c'est une amie qui est praticienne. Je vous mettrai en détail en privé.
Bien sûr.
Ce sera très intéressant que vous puissiez la contacter.
On va en discuter, excellent. Je vais mettre faire un enregistrement. Ne quittez pas la fenêtre, restez en ligne. Je dis au revoir officiellement. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, puisque les podcasts sortent le lundi. Donc aujourd'hui, on est lundi. Et passez une excellente semaine avec tous ces bons conseils. Entraînez-vous bien. Et puis inscrivez-vous à la lettre biomécanique, c'est le premier lien en description. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis tous à la semaine prochaine, à lundi prochain. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique, je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch? Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.